Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Nokra, dans le cercle de Douanzan, même heure sur la radio d'Onde Douanzan, et c'est également la même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur Dame, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Une semaine de réconciliation nationale se tiendra du 15 au 21 septembre prochain. L'annonce a été faite lors du conseil du cabinet du Premier ministre. Mais déjà, pour des sociologues, la tenue de cette semaine de pardon national ne suffira pas pour ramener la paix. Les acteurs politiques et la société civile échangent les pistes de relecture de la charte des partis politiques. L'objectif vise à rehausser le nombre des jeunes et des femmes dans les bureaux politiques. Sport, football, les infrastructures sportives des régions de Kita et Badjangara sont mal entretenues. Les responsables sportifs des deux localités interpellent les autorités à prendre des dispositions. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Noam Djiré. Les autorités de la transition envisagent d'organiser une semaine de réconciliation nationale du 15 au 21 septembre prochain. Cette décision a été prise mardi par le conseil de cabinet de la primature. Cette semaine permettra, selon les autorités, de renforcer le tissu social affecté depuis la crise de 2012. Plus de 200 millions de nos francs seront injectés dans l'organisation de cette activité. Le point avec Juliette Koulibaly.
L'organisation de cette semaine de la réconciliation est une recommandation des Assises nationales de la Refondation tenue en décembre 2021. Pour les autorités de la transition, cette semaine sera une opportunité de mobiliser les Maliens autour du vivre ensemble et de la stabilité du pays. Les communautés vont pouvoir communier et échanger dans la mouvance de la célébration de la fête de l'indépendance. Au cours de cette semaine, des instruments seront vulgarisés, notamment ceux dédiés à la promotion du patriotisme, civisme et la cohésion sociale. Elle sera également couronnée par une journée de pardon. L'organisation de cette semaine de pardon fait suite à la tenue des foras et rencontres intercommunautaires dans certaines régions du pays. Ces assises régionales n'ont été couronnées de succès, ont indiqué les autorités. Selon le ministre de la Réconciliation, colonel-major Ismaël Ouagé, cette situation serait due au fait que le cousinage à plaisanterie, le dialogue, le pardon et le vivre ensemble ont cédé place à la méfiance et à la violence, d'où l'importance de la tenue de cette semaine. À noter que cette semaine de réconciliation sera désormais commémorée chaque année en septembre selon les autorités.
Sur le même sujet, pour le sociologue Hamagindo, l'organisation de cette journée de pardon national ne suffit pas à elle seule pour renforcer le tissu social. Il indique qu'il faut associer au pardon une réparation pour apaiser les cœurs meurtris des victimes de la crise multidimensionnelle. Et le jeune par Juliette Koulibaly.
La réconciliation, certes, elle est nécessaire. Il faudrait quand même que ces journées dédiées à cette réconciliation ne se limitent pas seulement à l'élite. Il faut vraiment partir dans les zones de conflit, dans les zones de mésentente entre les différentes ethnies. Alors, la réconciliation, elle-même en tant que telle, je ne pense pas si elle seule sera efficace. Il faut vraiment, à côté de cette réconciliation, il faut essayer de voir la justice traditionnelle également pour voir comment s'adresser auprès de ces chefs de village, de ces autorités coutumières de ces zones-là. Parce que en s'agissant de cette réconciliation, souvent on constate que ces populations ont un regard légitime des autorités traditionnelles par rapport à cette justice que nous connaissons. Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin ressenti, puis ici dans les bureaux, aller les communiquer ou les dicter sur lesquels ils vont se référer. Là, il va de soi que la réconciliation aura des failles.
Réagissez à toutes ces informations en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Allons au centre du pays. Après 3 mois d'embargo des groupes terroristes, le blocus entre Boni et Douanzan au nord du pays est enfin levé depuis ce mardi 30 août. L'information est rapportée par des sources locales. Au même moment, les forces armées maliennes et de sécurité annoncent avoir neutralisé plus d'une quarantaine de terroristes. C'était le lundi dernier aux alentours de Tessit. Le point avec Moussa Malé Sissoko.
Des sources à Boni affirment que cette levée de blocus a été obtenue grâce à des négociations entre les leaders traditionnels du village et les présumés djihadistes. Ces derniers auraient promis de déminer toutes les routes dans 2 jours afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens. Pour rappel, l'axe Boni-Douanza-Gao sur la route nationale 16 était bloqué depuis plus de 2 mois par ces hommes armés. Ce mardi 30 août, l'armée avait annoncé dans un tweet la neutralisation des 44 terroristes dans le secteur de Tessit. C'était au cours des combats qui ont opposé les forces armées maliennes aux éléments de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Les FAMA déplorent 2 morts et 8 blessés dans leur rang. Une importante quantité d'armes et de munitions ont été récupérées. Et des motos incendiées, précise l'armée dans son tweet. Dimanche 7 août 2022, le poste avancé de l'armée à Tessit avait fait l'objet d'une attaque terroriste. Celle-ci avait coûté la vie à plusieurs militaires maliens, mais aussi à des civils.
Autre titre, un atelier de change de propositions sur les pistes de relecture de la charte des partis politiques a démarré mercredi. Organisé par le consortium des organisations civiques et politiques de jeunes femmes et leurs partenaires, l'objectif vise à contribuer à une meilleure appropriation de la charte des partis politiques. C'est là afin d'engendrer une synergie d'action pour pouvoir rehausser le nombre des jeunes et des femmes dans les bureaux politiques. Un reportage de Halima Yata.
Si pour certains jeunes représentants de la société civile et des partis politiques, cette charte est insuffisante, pour d'autres, elle doit juste être réformée.
Et les partis politiques mettent beaucoup plus d'accent sur la formation de l'opinion publique, de ses militants, que les partis ne soient pas seulement des partis qui concourent au suffrage universel.
Elle a des insuffisances quand même qu'il faut combler. Nos attentes, c'est que vraiment le rôle des femmes, le rôle des jeunes dans les instances de prise de décision.
Toutefois, la représentante Mali et coordinatrice Sahel de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD, Célia d'Almeida indique que la crise que traverse le pays de 2012 à nos jours est due aux failles des partis politiques.
Il y a des insuffisances. C'est la raison pour laquelle elle est sur la liste des réformes qui sont en train d'être élaborées.
Le président du réseau des jeunes des partis politiques du Mali, RJPPM, Mamadou Sansiba, pense que la réélecture de la charte permettra aux partis politiques de jouer un rôle équilibré.
Les jeunes acteurs politiques et de la société civile doit maîtriser la charte actuelle et aussi connaître les faiblesses de cette charte.
Dans cette nouvelle charte, le consortium propose l'octroi d'un quota de 30% aux jeunes, 30% aux femmes dans les bureaux politiques, la révision des conditions d'octroi des subventions publiques aux partis politiques et la levée des barrières financières pour freiner les candidatures des jeunes lors de la constitution des listes.
Parlons agriculture, les acteurs de la chaîne de production du Fonio se sont réunis à Bamako. Objectif, mettre en place une interprofession qui va désormais organiser le secteur et améliorer sa chaîne de valeur. Cela devrait permettre au pays de donner à ce produit la place qu'il mérite dans la production agricole du Mali. Cette initiative a bénéficié de l'accompagnement du gouvernement qui souhaite aller vers une production massive du Fonio. Suivons ce reportage signé Issa Omar Togola.
Pour les producteurs du Fonio, il est impératif de mettre en place cette interprofession qui va appuyer les acteurs et organiser les secteurs. Elle sera composée des producteurs, des transformateurs ainsi que des commerçants. Baba Dakou, producteur.
Quand on arrive à s'organiser, ça va élargir et augmenter la culture du Fonio et que seulement ces transformatrices seront satisfaites.
Satisfaire les transformatrices, mais aussi les besoins du marché. C'est l'objectif affiché du ministère du Développement Rural qui voit en ces produits un moyen pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Daniel Siméon Kelema, secrétaire général du ministère.
Nous sommes à peu près à 28 000 tonnes de fonio aujourd'hui par an, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des dispositions qui sont déjà là, mais sur le plan industriel, à grandeur d'échelle, donc tout ça, ça peut venir avec le temps.
En plus de ses vertus en matière de santé, le fonio s'adapte à tous les sols du Mali et il est fortement recherché sur le marché national et international. C'est pour cette raison que LuxDev s'illustre dans la même logique que le gouvernement en appuyant ce secteur. Stefano Capotorti.
Notre accompagnement est à la fois un accompagnement en assistant technique, c'est en même temps un appui financier en infrastructure, en formation.
Cette interprofession va donc s'ajouter à des fédérations au niveau local et à la confédération au niveau national. Leur rôle commun, organiser les secteurs et protéger le marché local, parfois envahi par d'autres qualités de fonio venues d'ailleurs.
Santé à présent, il est difficile de circuler dans les rues de Bamako sans apercevoir des médicaments dans un panier ou sur une table. Appelés communément médicaments de la rue, pharmacie par terre ou yala yala fura, la vente de ces médicaments n'est plus clandestine à Bamako. Ces produits pourtant décriés par les médecins sont consommés en grande partie par les populations. Ils sont d'une grande variété avec une prédominance antalgique, antipaludique et antibiotique, indiquent des consommateurs. Pour en savoir plus, suivons Draman Maïga.
Ces médicaments sont en majorité des produits de contrefaçon et de mauvaise qualité. Vendus sous forme de comprimés, sirops, poudres, effervescents, ces médicaments sont sur le marché, dans les boutiques et même dans certaines familles à bas prix.
Quant à moi, je n'utilise pas les médicaments de la rue. Il faut vraiment éviter de prendre ces médicaments.
Les autorités doivent vraiment créer des conditions pour que les gens qui vendent ces médicaments puissent être orientés dans d'autres secteurs différents de la vente des médicaments de façon anarchique.
Les pharmacies par terre sont beaucoup plus utilisées parce que les pharmacies par terre sont des pharmacies de proximité plus que nos propres pharmacies en fait.
L'explosion de la vente de ces produits dangereux pour la santé inquiète les médecins. Pour Dr Boubacar Richard, président à Bamako de l'Ordre des pharmaciens du Mali, il faut une volonté politique forte pour résoudre ces problèmes de santé publique.
Nous souhaitons avoir des lois aussi fortes pour quand même pouvoir criminaliser la vente illicite des médicaments. Les gens minimisent un peu les dangers de cette vente illicite des médicaments. Même un bon médicament, quand il est mal utilisé, ça peut être un poison. Or, ça, c'est des médicaments non seulement de mauvaise qualité et manipulés par des gens qui n'ont aucune notion de la pharmacie et du médicament. L'État, quand même, est garant de la santé de ses populations.
En plus de sa dangerosité sur la santé, cette vente illicite des médicaments est un grand manque à gagner pour l'économie du pays, conclut l'Ordre des pharmaciens du Mali.
Parlons à présent de l'état des terrains de football. Les terrains de football des régions de Kita et Badjangara sont mal entretenus, ont confirmé des responsables sportifs des deux localités. Ils demandent aux autorités de prendre des dispositions pour le management de ces centres sportifs. Les détails avec Sita Sidibé.
Le président de la sous-commission du sport de Badjangara déplore l'état de leur terrain de foot. Selon lui, Badjangara est désormais une région et mérite un terrain de foot adapté. Hamadou Nwolegem, président de la sous-commission du football de la commune de Badjangara.
Vraiment, nos terrains ne répondent pas aux normes. Et surtout le terrain de foot, on a cherché à réhabiliter, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Même le terrain de basket, la clôture, ça n'existe pas, on peut dire. Donc vraiment, si on peut avoir des partenaires qui peuvent nous aider vraiment à nous aménager un peu le terrain même à l'intérieur, surtout au niveau des gradins.
À Kita, l'état du stade municipal est confronté à d'énormes difficultés. Le manque d'eau pour mieux entretenir la pelouse, les murs de clôture délabrés et l'incapacité de la tribune d'abriter les supporters à hauteur de souhait sont entre autres les points soulignés par les responsables du football. Mehen Traoré, vice-président des supporters de football de Kita.
Bien vrai que le terrain est petit, mais le problème est que la tribune est très petite. Elle ne peut pas supporter tous les gens de Kita. Même si on renouvelle la tribune, tant que ça reste sur cette dimension, il est difficile que la tribune puisse contenir tous les supporters. Surtout quand on sait que les grandes équipes de Bamako doivent jouer ici à Kita. Les jours de grands matchs, les gens montent même sur les murs et les toits pour assister.
À rappeler que les supporters demandent aux autorités de prendre des mesures pour l'entretien normal des centres de sport dans tous les pays.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
L'actualité régionale en bref, commençons par Ansongo, où la faible participation des jeunes dans les instances de décision telles que le comité de gestion scolaire ou la mairie était au cœur d'une rencontre ce mardi. Elle a été organisée par la jeunesse de la commune de Tinhama. Plus d'une centaine de participants ont échangé sur le rôle des jeunes dans le développement de la commune. Ils ont déploré l'absence des jeunes dans les instances de décision et demandé aux autorités leur implication. Des rencontres du même genre se sont également tenues dans les communes de Boura et Ouattaguna. Elles ont été financées par Nouveau Horizon. Terminons par Kadjoulo, où l'administrateur général de la filiale sud de la compagnie malienne de développement du textile CMDT était sur place ce mardi. Les échanges avec les responsables du secteur CMDT de la localité ont porté sur l'état de la campagne cotonnière et la situation des insectes ravageurs dénommés Jacobiella. Ces invertébrés sont signalés dans les champs depuis plusieurs semaines. Le secteur a été doté de plus de 50 000 litres d'insecticides pour mener l'offensive contre ces insectes. Une vingtaine d'agents d'encadrement venus des différentes zones de production agricole en préparent à la rencontre. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Nuhum Djiré. Vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en bambara avec Aissata Diarra. Est-il naturel d'avoir une préférence pour des bébés de sexe masculin? La réponse est affirmative pour de nombreux couples au Mali. Pour ces familles, on préfère avoir plus de garçons que des filles ou même seulement des garçons. Certaines femmes sont souvent stigmatisées dans la société quand elles n'accouchent que des filles. Cependant, des gynécologues expliquent que le sexe de l'enfant est déterminé par des chromosomes produits par l'homme. Existe-t-il des aliments qu'il faut consommer pour avoir un garçon ou une fille? Des réponses à toutes ces questions dans ce reportage de Omar Waigalo.
Ça fait 30 ans que je suis mariée. J'ai une coépouse et je suis mère de 5 enfants. Elles sont toutes des filles. C'est vraiment difficile. Je suis triste parfois quand on m'annonce que c'est une fille après l'accouchement. Les gens me reprochent toujours de n'avoir que des filles quand ils viennent me rendre visite quand j'accouche. Parfois, ça me décourage même d'avoir d'autres enfants.
Ceci est le témoignage d'une vieille dame sous couvert d'anonymat. Cette quinquagénaire a fait plus de 5 maternités sans avoir de garçon. Elle s'est dit victime de stigmatisation par son entourage. Pourtant, cette préférence des garçons n'est pas aperçue comme une injustice par les hommes. Les fils sont synonymes de la continuité de leur alignée, explique-t-il.
Nous, on préfère les garçons. Ils sont notre avenir. On aime également les filles. Comment ne pas les aimer alors qu'on marie les filles des autres?
Ce sont les garçons qui assurent nos relèves. C'est pourquoi on ne joue pas avec leur éducation.
Nombreux sont ceux qui aiment avoir les garçons comme relève. C'est ce qui fait que les gens aiment les garçons.
Pour des traditionalistes, dans la croyance populaire, la naissance d'un garçon renforce le statut de son père et l'honore, alors que celle d'une fille ne les remplit pas d'autant de joie. Les traditionalistes soutiennent également que les filles sont généralement appelées à se marier et construire de nouvelles familles. Sidiki Kouyaté, traditionnaliste.
La première préférence, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire que les garçons aussi bien que les filles. Maintenant, à défaut de ne pas avoir les deux, les gens préfèrent généralement les garçons. Dans les familles, ce sont les garçons qui restent, mais étrangement, les filles, elles sont très généralement sollicitées pour être mariées ailleurs.
Pourtant, les gynécologues sont clairs. Le sexe de l'enfant dépend de son père. Et il n'y a aucune exception scientifique à cette règle, poursuivent-ils. Kalidou Mangara, gynécologue à l'hôpital de Xambour.
Chaque fois qu'une femme tombe enceinte, elle ne donne que le X. Et c'est l'homme qui donne soit le X ou le Y. Donc si on a une fille, c'est que l'homme a donné son X et sa femme a donné son X, donc c'est une fille. Si on a un garçon, c'est que la femme ne pouvant donner que le X va toujours continuer à donner le X. Et l'homme a donné son Y et donc ça devient X, Y et ça devient un garçon. De façon terre à terre, si il y a quelqu'un qui doit donner le garçon dans un couple, ça ne peut être que le mari.
Pour certains habitants, la consommation des aliments salés, la charcuterie ou encore certaines positions lors des rapports sexuels peuvent favoriser l'obtention d'un garçon. Mais aucune étude scientifique ne confirme cette thèse, ajoute Dr Kalidou Mangara.
On avait entendu par le passé que les aliments salés ou les charcuteries pouvaient entraîner une mobilisation du sperme et favoriseraient l'obtention d'un garçon, et que les aliments à base de lait pouvaient aussi donner une fille, mais il n'y a aucune étude scientifique qui confirme cette thèse.
Garçon ou fille, l'essentiel est d'avoir un enfant béni, affirment des observateurs.